Et dimanche 23 novembre, bonjour à tous, il est 8h sur Alger chaîne 3, c'est l'heure du journal.
Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Dans sa forme avec vous, Faisal Kenz, bonjour.
Bonjour Hakim, Madame, Monsieur, bonjour. Le président Tebboune appelle le G20 à alléger la dette des pays en développement, à réformer les institutions financières et à renforcer les financements pour la prévention des catastrophes. Il a également exhorté le sommet à soutenir le peuple palestinien, réaffirmant l'engagement de l'Algérie en ce sens. Les travaux de la nouvelle station de dessalement d'eau de mer à Sidi El Adjel sont lancés à Mostaganem. Délai de réalisation 22 mois, capacité de production 30 000 mètres cubes jour. Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite démarre la fin du mois. 4 millions d'enfants sont concernés. 274 centres de santé de proximité sont mis à contribution. Le Parlement européen divisé sur l'étiquetage des produits du Sahara occidental. La Commission propose de remplacer pays d'origine par région d'origine, une décision jugée illégale par plusieurs députés. À Gaza, à Paris, une grande manifestation de solidarité avec le peuple palestinien est prévue samedi prochain. En attendant, les frappes sionistes se poursuivent. Et puis sport football, en coupe de la CAF, l'USM Alger joue ce soir face au FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Le CR Belouizdad s'est imposé 2-0 devant la formation tanzanienne de Sigida Black. Et en Champions League africaine, la JS Kabylie a été battue 4-1 par Al Ahly du Caire.
Le sommet du G20 prend fin à Johannesburg avec l'adoption d'une déclaration finale. Le président de la République était représenté par le Premier ministre Sefir El Eyyab.
Le renforcement de la résilience économique, l'amélioration de la gestion de la dette dans les pays à faible revenu et intermédiaire, ainsi que l'investissement dans la réduction des risques de catastrophe et le financement climatique constituent les principaux engagements des dirigeants du G20 lors de leur sommet tenu à Johannesburg. Le président de la République était représenté par le Premier ministre Sefir El Eyyab. Ce dernier a lu le message du chef de l'État dans lequel il a appelé à alléger la dette des pays en développement. On l'écoute.
L'Algérie appelle à adopter une approche incluant l'effacement partiel de la dette des pays les plus pauvres ou la conversion des aides en investissements directs et utiles dans ces pays. Elle souligne également la nécessité de corriger les complexités techniques liées à l'évaluation des risques à travers des réformes profondes permettant de trouver une issue pour les pays lourdement endettés en matière de dette souveraine.
Abdelmadjid Tebboune a également plaidé pour une réforme des institutions financières.
L'Algérie se joint aux pays appelant à une réforme des organisations financières internationales en prenant une gouvernance économique et financière rigoureuse. Cela passe par la révision des mécanismes de prise de décision afin de garantir une représentation équitable, juste et transparente des pays en développement et de l'Afrique au sein des instances dirigeantes de ces institutions.
L'Algérie, fortement touchée par le changement climatique, renforce son dispositif légal et institutionnel pour mieux prévenir et gérer ces catastrophes.
Mon pays s'emploie à mettre en place un arsenal juridique et institutionnel pour la prévention des grands risques et la gestion des catastrophes, couvrant tous les aspects de l'intervention. Renforcement des infrastructures, consolidation des capacités techniques et technologiques, mise en place et amélioration des systèmes d'alerte précoce concernant les séismes, les inondations et les incendies de forêt. Ces efforts ont été accompagnés par la mobilisation de moyens financiers importants afin de permettre aux sinistrés de bénéficier des financements nécessaire pour faire face aux dommages et pertes causées par ces catastrophes. Sur le plan régional et continental, l'Algérie a pris l'initiative de créer un mécanisme africain de prévention des risques de catastrophes visant à établir une force civile régionale de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles.
Et le président Tebboune a également exhorté le G20 à se mobiliser en faveur du peuple palestinien, réaffirmant l'engagement de l'Algérie à soutenir toute initiative en ce sens. La déclaration finale adoptée par les dirigeants du G20 soutient aussi une exploitation accrue des minerais stratégiques, en particulier dans les pays en développement. Concernant les crises et conflits en Afrique, les participants ont affirmé leur engagement à instaurer la paix. Samar Hamadi est l'envoyé spécial de la radio à Johannesburg.
Les dirigeants du G20 ont adopté la déclaration finale de ce sommet historique, le tout premier tenu sur le continent africain. Une déclaration avec quelques points essentiels. D'abord, le cœur du texte, la paix. Les chefs d'État s'engagent à travailler pour une paix juste, globale et durable dans les principaux foyers de crise. Le Soudan, plongé dans une guerre qui menace toute la région, la République démocratique du Congo et le territoire palestinien occupé où il souligne la nécessité urgente de mettre fin aux violences. Le G20 étend cet engagement à tous les conflits dans le monde, affirmant que sans paix, il ne peut y avoir ni durabilité ni prospérité. Deuxième axe très fort, le soutien au continent africain. Le sommet insiste sur l'esprit d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Elle rappelle aussi que l'Afrique doit être au centre des solutions globales, dette, énergie, industrialisation, sécurité alimentaire, minerais critiques. Cette édition met surtout et clairement l'Afrique au cœur des priorités mondiales. Enfin, un dernier point clé, la condamnation explicite du terrorisme sous toutes ses formes et un appel au respect du droit international et de la protection des civils.
Projet essentiel et avancé en matière de développement centré sur le citoyen, un engagement concrétisé sur le terrain à la faveur de la récente visite du président de la République à Constantine. Parmi ces projets, la réalisation d'un nouveau CHU d'une capacité de 500 lits. Constantine bénéficiera également d'un quota de plus de 14 800 logements des formules AADL et LPL, dont la première pierre a été posée par le président Tebboune. On l'écoute.
راه من اكبر المؤشرات الاقتصاديه والاجتماعيه بالنسبه للتنميه تاع بلاد الحمد لله سان لوجمون انتغري اي سي بور سا كون فا فيت اي سي بور سا كون فا ريغلي ديفينيتيفمون لو بروبلام تبقى من بعد في تحسين النوعيات نجوها ان شاء الله مي اليوم ما فيش ما عدا اللي يحب يناور ولا نعتقد ان الانسان اللي يصبر يدي السكن تاعو إذا كان من افتاو صحيح وبهذه الكيفية تصبح الأمور عادية ما تصبحش فيها الرشوة ما تصبحش فيها يخصك تعرف لوبي جي ولا تعرف خوه ولا تعرف بن عمه ولا تعرف سيفينيس والله حقك تديه كل شيء راه دون جي بلاتفورم وما فيش دولة أخرى اللي عندها هذا النظام جازم لا في أوروبا ولا في أفريقيا ونفتخر بهذه الأمور.
Autre engagement du chef de l'État, assurer la sécurité hydrique du pays avec la réalisation de plusieurs stations de dessalement d'eau de mer. À Mostaganem, les travaux de la nouvelle station de Sidi Lajel sont lancés, Amina Hamdout.
Cette infrastructure, implantée sur une surface de 10 hectares, doit accompagner l'augmentation constante de la demande en eau potable et répondre aux défis hydriques posés par les faibles précipitations de ces dernières années. Le PDG de Sonatrach, Nordine Daoudi.
Aujourd'hui, nous sommes ici à Mostaganem pour le lancement des travaux de la station de dessalement. Comme toutes les stations, sa capacité sera de 300 000 m3 par jour. Nous commencerons par une première tranche de 150 000 m3 après 22 mois de travaux pour atteindre progressivement les 300 000 m3.
La future station devra ainsi contribuer au renforcement de l'approvisionnement en eau potable pour plusieurs wilayas, tout en soutenant les activités agricoles et touristiques de la région.
Ce projet, comme tous les autres, poursuit plusieurs objectifs. Maîtriser les coûts, respecter les délais de réalisation et, élément très important, assurer une maintenance optimale. Tous ces objectifs seront réalisés par des ingénieurs, des techniciens et une main-d'œuvre 100% algérienne.
Une mise en service partielle est attendue dans 22 mois, marquant une avancée significative vers un approvisionnement hydrique plus stable pour Mostaganem et les régions voisines. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al Jazeera 3.
En visite à Amsila, le ministre de l'Intérieur Saïd Saïoud annonce une série de mesures pour faire face aux conséquences des récentes intempéries. À Sidi Aïssa, il a confirmé l'allocation de près de 500 millions de dinars, une enveloppe qui sera consacrée à l'aménagement urbain, au nettoyage des ouèdes et au financement d'une étude destinée à renforcer la prévention contre les inondations dans 9 communes de la wilaya. Saïd Saïoud au micro de nos collègues de la chaîne 2.
Nous avons accordé environ 50 milliards aux autorités locales afin de répondre rapidement aux préoccupations des citoyens. On a dit qu'on commençait par le développement urbain et la distribution des logements. On lancera ensuite d'autres programmes pour aider cette ville à faire face à ces difficultés. Je tiens à rappeler que le développement local et l'amélioration des conditions de vie des citoyens doivent être une priorité pour les autorités locales. Cela demande le renforcement du contrôle sur le terrain et la coordination entre les élus locaux et la société civile. Et c'est le nouveau mode de gouvernance que nous devons suivre.
Et avec la baisse des températures, la prudence est de mise pour éviter les accidents liés au monoxyde de carbone. Le ministère de l'Intérieur recommande de faire contrôler ses équipements de chauffage par un professionnel, d'éviter les appareils contrefaits et de toujours aérer son logement au moins 10 minutes par jour.
8h09 minutes, le ministère de la Santé prévoit de lancer une grande campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite.
Elle démarre la fin du mois en cours pour prévenir le retour d'un virus mutant détecté ces dernières années. 4 millions d'enfants sont concernés. Les parents sont donc appelés à se rendre dans les 274 établissements de santé de proximité pour faire vacciner leurs enfants. À Mostaganem, tous les moyens sont mobilisés pour assurer une couverture optimale. Le DSP de la wilaya Mohamed Toufir Khalil en parle à Yamina Hamdout.
Toutes les dispositions ont été prises avec les directeurs des établissements de santé pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à cette campagne. Cette campagne ciblera les enfants âgés de 2 mois à 5 ans et couvrira l'ensemble du territoire de la wilaya. Nous avons préparé un stock de 124 000 doses. La vaccination devrait profiter à plus de 94 000 enfants.
Et il faut savoir que l'Algérie est exempte de poliovirus sauvage depuis 2016 grâce à la vaccination et aux efforts soutenus de l'État. Samia Hamadi, directrice de la prévention chargée des maladies transmissibles au ministère de la Santé, au micro de Hassan Chemesh.
En 2022, nous avons enregistré un cas de polio dérivé du vaccin. Mais cette fois-ci, c'est enregistré chez un enfant qui n'est pas vacciné. Ça veut dire que le risque, il est toujours là. Il suffit qu'il y ait une baisse de couverture vaccinale qu'il y a l'apparition des risques des maladies évitables par la vaccination. L'apparition de ce cas n'impacte pas la certification. Ça veut dire que l'Algérie, elle maintient sa certification de polio free.
Le ministre des Hydrocarbures et des Mines représente l'Algérie à la 21e conférence générale de l'ONUDI qui s'ouvre ce dimanche à Riyad. Cet événement qui réunit 173 pays sera marqué par le sommet mondial de l'industrie. Mohamed Arkab y présentera la vision industrielle de l'Algérie et participera à une session clé sur le développement de l'hydrogène vert.
8h11 minutes, la controverse enfle au Parlement européen autour de l'étiquetage des produits venus du Sahara occidental.
La Commission européenne propose de remplacer la mention du pays d'origine par celle de la région d'origine, alignée sur les divisions administratives imposées par l'occupant marocain. Le Parti populaire européen et les Patriotes pour l'Europe comptent déposer une objection formelle lors de la séance plénière du 26 novembre courant. Plusieurs eurodéputés de droite comme de gauche jugent la proposition illégale. Ils rappellent que la Cour de justice de l'UE a confirmé à 10 reprises que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts. À Gaza, le cessez-le-feu continue d'être violé. Plus d'une vingtaine de Palestiniens sont tombés en martyr ces dernières heures à Deir el-Balah et Nusayrat, dans le centre de l'enclave. Le bilan de l'agression sioniste frôle les 70 000 martyrs. Le nombre de blessés a dépassé les 170 000, en majorité des femmes et des enfants. Et en plus des bombardements, les Gazaouis font face à un hiver rude et au manque d'aide humanitaire. Une grande manifestation nationale sera organisée samedi prochain à Paris à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, annonce plusieurs associations de solidarité en France. On reste en France avec ce rejet historique du budget 2026. Après un débat de 125 heures à l'Assemblée française, tous les amendements votés sont annulés. Le texte sera soumis au Sénat pour débat dès jeudi prochain. Le rejet du budget fragilise le gouvernement Lecornu qui espère encore un compromis d'ici au 31 décembre prochain. On écoute François Géré, analyste fondateur du Centre français de géopolitique. Il répond à Karima Hasnaoui.
Dans l'état actuel des choses, on est malheureusement bien parti pour ça. Il y a deux lois de finances, notamment la loi de finances de fonctionnement de l'État, qui, si elle n'est pas promulguée avant le 31 décembre, suspend évidemment le financement des activités de l'administration française. De même pour la sécurité sociale. Donc, il y a aujourd'hui quand même deux possibilités. Soit une loi de finances spéciale, soit le gouvernement peut décider de légiférer par ordonnance, ce qui permettrait d'éviter effectivement le shutdown.
Retour chez nous pour aller au cœur du Sahara où s'étend un géant minéral encore largement méconnu, le Hoggar. Entre richesses géologiques, enjeux stratégiques et mystères scientifiques, ce massif emblématique du sud algérien est au centre d'une rencontre internationale organisée par l'Académie algérienne des sciences et des technologies de l'USTHB. Pendant 3 jours donc, experts du monde entier se pencheront sur les secrets d'un territoire aussi fascinant que complexe. Professeur Saifeddine Amara, directeur d'études, en parle à Hamid Belkacem.
Cet événement réunit des chercheurs et des experts nationaux et internationaux qui vont débattre pendant 3 jours sur les dernières études et expertises en relation avec le massif du Hoga, et ce pour mieux comprendre cette région et aussi pour encourager le développement durable de ses richesses minières. Ce massif est riche en minéraux précieux comme l'or, le lithium, l'uranium et bien d'autres ressources encore. Ces ressources naturelles restent encore peu explorées. Au-delà de ce fait, le massif du Hogar est un véritable laboratoire à ciel ouvert permettant d'étudier les transformations géologiques que l'on voit parfois à même le sol.
Du football pour terminer avec tout d'abord la Champions League africaine. La JS Kabylie a vécu une soirée difficile hier au Caire. Les Canaries se sont inclinés 4-1 face à El Ahly. Ils sont déjà dos au mur et devront impérativement battre les Young Africans le 28 novembre courant à Tizi Ouzou pour relancer leurs espoirs dans la compétition. Et puis en Coupe de la CAF, l'USM Alger joue ce soir face au FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Coup d'envoi de la rencontre 20h au stade du 5 juillet. Ça sera pour le compte du groupe A. Et dans le groupe C, le CR Belouizdad s'est imposé 2-0 devant la formation tanzanienne de Singida Black Stars au stade Nelson Mandela. Lors de la deuxième journée prévue du 28 au 30 novembre, les Belouizdadis se déplaceront chez l'AS Auto du Congo. Et puis on termine un mot de Ligue 1. Le SM Khanchla, large vainqueur de la JS Saoura 3-0, se hisse à la 4e place au classement à l'occasion de la 12e journée. On est amputé de 3 rencontres. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Khaled était à la console technique, Ikram à la régie d'antenne et Yassine au streaming.